France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Nous allons bientôt changer de saison, quitter l'été qui nous a vu ouvrir ce nouveau book club pour rejoindre l'automne et ses autres lumières. J'espère que vous avez désormais trouvé le meilleur moment pour nous écouter. Merci en tout cas d'être entré si généreusement dans cette grande conversation autour des livres et de continuer de le faire. Je rappelle que nous recevons avec toujours beaucoup de curiosité vos questions aux autrices et auteurs, autant que vos impressions de lecture et participation au grand jeu des pages musicales. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain québécois Kevin Lambert, après sa sortie de l'autre côté de l'Atlantique, son roman « Que notre joie demeure » apparu en cette rentrée littéraire aux éditions du Nouvel Attila. C'est la joie. Dans sa chronique « Lecture jeunesse », Mathilde Wagman nous parle d'un abécédaire en fin d'émission. Et puis on se quittera en chanson, comme d'habitude, grâce au grand jeu des pages musicales. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Kevin Lambert.
Bonjour Marie.
C'est vrai que c'est la joie de vous revoir à ce micro de France Culture.
La joie est partagée, la joie éclate. Ouais.
Et la joie est aussi sur votre livre, on en parlera tout à l'heure, Que notre joie demeure, apparu donc en cette rentrée littéraire française au Nouvel Attila. Cette émission, elle commence tous les jours par un questionnaire, peut-être pour proposer une sorte de premier portrait en creux de nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lectrices et des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire ?
Je me souviens mal d'avoir appris à lire, mais je me souviens d'avoir appris à écrire. Comment je trouvais ça difficile et bizarre, la main manuscrite, la main écrite. Puis je comprenais pas pourquoi il y avait un modèle. Donc on voyait ces lettres-là très bien formées dans le cahier qui nous montraient l'espèce d'idéal de la lettre. Puis je comprenais pas parce que les adultes, quand ils écrivaient, ils suivaient pas du tout le modèle. Donc j'avais l'impression qu'on voulait nous apprendre quelque chose de faux, en fait, dans cette fidélité-là détournée à un modèle. Puis quand on vieillit, après, on apprend que l'écriture, c'est éminemment personnel, puis que la défiguration de la lettre, puis la main manuscrite aussi, est aussi importante que la lisibilité.
Est-ce qu'on apprend à avoir une façon personnelle de lire? Est-ce que ce chemin que vous décrivez, Kevin Lambert, dans le rapport à la graphie, c'est un chemin qu'on peut aussi, petit à petit, emprunter, à savoir quel lecteur je suis, quelle lectrice je suis, ça va être quoi mon chemin dans la littérature?
Ouais, pour moi ça a été fondamental, puis notamment à cause du désir. C'est que je lisais des livres où le désir était généralement hétéro, puis moi je me reconnaissais pas dans ce désir-là, puis j'ai développé toutes sortes d'identifications à des personnages secondaires, des identifications inattendues, comme si les livres étaient pas faits pour moi, mais que j'y trouvais mon chemin qui est pareil, puis j'y faisais mon chemin aussi. Puis moi maintenant c'est mon rapport à la lecture, c'est ça. Maintenant je me dis il y a pas de livre que je peux pas m'approprier, puis dans lequel je peux pas trouver mon chemin en trahissant le livre parfois aussi, puis en le détournant. Je trouve que le lecteur ou la lectrice a aussi cette tâche-là ou ce droit-là de trahir les livres, puis d'en transformer le sens. Le sens d'un livre, c'est une responsabilité, je pense.
Au sens peut-être d'en déséquilibrer les forces, c'est-à-dire au lieu de n'avoir qu'un seul chemin d'identification par là où le personnage principal, on peut déséquilibrer un livre à sa faveur en choisissant d'aller plutôt dans cet endroit du paysage du livre ou dans cet autre endroit.
Ouais, complètement. Puis moi aussi, tu sais, je lisais beaucoup des trucs de fantasy, tu sais, quand j'étais enfant, des histoires de chevaliers, des trucs comme ça, des grandes aventures. Puis tu sais, pour moi, les chevaliers couchaient ensemble entre les chapitres. Puis je m'identifiais pas seulement aux personnages principaux, je m'identifiais aussi aux arbres, au cheval qui était chevauché, à la muraille, à la princesse. Donc moi, je pense, je suis convaincu que l'expérience de la lecture est multiple, que l'identification, souvent, on la pense par rapport à un personnage, où je me reconnais ou non dans ce personnage-là, mais que c'est infiniment trop petit pour penser la lecture, qui est beaucoup plus disparate, plurielle, puis inattendue que ça.
Mais ça signifie que l'expérience que vous racontez, Kevin Lambert, elle va plutôt du côté de l'ouverture et d'un désir qui trouve sa réalisation que du fait d'avoir été mis au dehors des livres. Finalement, vous racontez pas une façon de buter sur des identifications qui ne se faisaient pas et qui vous mettaient en dehors des textes.
Non, si je m'y retrouvais pas, c'était ma tâche, mon devoir de transformer les textes. Puis moi je le fais encore aujourd'hui quand je lis des livres, puis des fois même je m'en rends compte en parlant avec des gens, parce que je me rends compte que j'invente complètement des épisodes. Et puis là je raconte, il se passe ça à tel moment, non, puis là tout le monde est comme ben non, ça il se passe pas ça, mais moi il s'est passé ça dans ma lecture, puis j'ai l'impression que c'est aussi vrai que ce qui est écrit, en fait, qu'on a le droit de faire ça.
Si on va un peu plus loin dans votre biographie et qu'on quitte l'enfance, apprentissage de la lecture et de l'écriture, quels sont les moments de lecture qui ont pu être fondateurs ou qui ont pu marquer comme ça un moment important?
Moi, j'ai réalisé récemment que tous les livres que je lisais enfant, c'était des livres qui disaient, grosso modo, c'est le schéma de Harry Potter, par exemple, mais les enfants tristes, les enfants qui ne se reconnaissent pas dans leur monde, qui se sentent exclus, un jour, ils vont découvrir un portail qui mène vers une autre dimension où ils vont avoir leur place. C'est Narnia, c'est les mondes des Willans que j'avais adoré aussi. C'est beaucoup, beaucoup de livres pour la jeunesse qui disent ça, qui disent, alors les enfants tristes, vous allez trouver un jour ce monde secondaire-là où vous allez avoir une lignée inattendue, ou un destin, un rôle à jouer, en fait. Puis, je me souviens d'avoir espéré très fort que ça existe, ce monde-là, pour sortir du monde, du vrai monde que je trouvais violent. Puis, je trouve que cette promesse-là, elle est à la fois merveilleuse parce qu'elle nous dit, les livres, c'est les livres, ce portail-là, en fait. Donc, les livres nous permettent d'ouvrir l'armoire puis d'entrer dans le monde de Narnia. En même temps, elle est très cruelle parce que, à un moment donné, on se rend compte que le deuxième monde, il n'existe pas, puis qu'il faut faire avec le seul monde qu'on a, où on trouvera peut-être jamais tout à fait notre place.
Mais est-ce que le détour néanmoins par la porte qu'on a pu ouvrir par les textes fait que, revenu au seul monde que nous avons, Kevin Lambert, on a quand même un peu bougé ou on a quand même ouvert une place nouvelle pour soi-même?
Moi, je pense que oui, puis je pense qu'on se comprend beaucoup par l'oblique. Moi, j'ai pas un rapport très direct à mes émotions, puis à, disons, mon identité, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce concept-là. J'ai l'impression d'être un peu aqueuse ou visqueuse comme personne. Puis souvent, je me comprends par des voies détournées, par justement les
par
mondes.
Par un détour, quoi.
Ouais, puis par les mondes étranges que me font visiter les livres, puis la littérature.
Est-ce que vous avez une table de chevet?
Ouais.
Est-ce qu'il y a des livres dessus?
Ouais, il y a une grosse pile de livres dessus.
Est-ce que ce sont des livres qui vous attendent patiemment, que vous avez lus? C'est des vieux amis ou c'est des futurs amis?
C'est plutôt des futurs amis. Des fois, c'est des amis que j'ai entamés aussi. Puis en ce moment, ma table de chevet, là, je pense à celle de Montréal, est pleine de livres de Joyce Carol Oates. Parce que depuis un an, je lis à peu près juste ça. Moi, j'étais un peu monomaniaque. Quand je découvre une œuvre qui me plaît, je passe beaucoup de temps dedans. Puis là, depuis un an, je trouve que tout est fade comparé à Joyce Carol Oates.
Qu'est-ce que vous y trouvez?
Je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui s'est posé la question très actuelle du traumatisme, mais que la forme qu'elle trouve pour exprimer le traumatisme, pour moi, est assez rare, c'est-à-dire c'est celle de la narration. Puis on aborde beaucoup le traumatisme, puis c'est pas du tout pour hiérarchiser, là, c'est vraiment intéressant aussi ces autres approches du traumatisme-là, mais on l'aborde souvent par le fragment, par l'impossibilité de dire, puis c'est normal parce qu'il y a ça dans le trauma.
T'sais. Ça crée ça aussi, cette dissociation, y compris dans le discours, explosion du discours.
Exactement. Puis des fois, on n'arrive même pas à nommer. Puis ça crée du vide aussi, ça crée de l'oubli, ça crée des trous. Mais Joyce Carol Oates, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle inscrit ces trous-là, puis cette expérience-là complètement fragmentée puis éclatée dans une histoire, dans un parcours de vie, dans une narration.
Vous pensez à quel texte?
Je pense à Les Chutes, je pense à Sexy. Sexy, c'est mon préféré, je pense, qui est un petit livre pas connu qu'elle a écrit pour les ados, mais qui est pas du tout ado comme livre, je trouve. Puis où je trouve que ce qu'elle écrit bien aussi du trauma, c'est que souvent, on focalise sur le point de vue d'un personnage, puis on se rend même pas compte de ce qui s'est passé pendant la scène. T'sais. Puis là, c'est à rebours, 50 pages plus loin, qu'on va se dire, mais coudonc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène-là? Puis je pense, dans Sexy, par exemple, il y a un moment où le personnage est en voiture avec un professeur, donc c'est un jeune adolescent à l'école qui est avec son professeur en voiture. Puis moi, j'avais rien vu de cette scène-là. C'est juste une scène de voiture. Puis quand je suis allé la relire, il y a un moment, parce que cette scène-là le traumatise complètement, il repense sans arrêt. Puis il y a un moment où la phrase fait seulement dire que le professeur le regarde, puis que ce regard-là, ça, c'est la sensation d'une main qui passe sous ses vêtements. Puis là, c'est très troublant quand on le relit parce qu'on se dit, est-ce qu'il s'est passé ça? Puis elle nous l'a pas décrit. Comment elle nous a trompés, en fait?
Ce qui est aussi un des vertiges, si on vient sur la question post-traumatique qui occupe en effet beaucoup le discours littéraire et médiatique en ce moment dans les sociétés, c'est un des vertiges, est-ce qu'il s'est vraiment passé ça? C'est aussi un des vertiges dans le rapport au trauma, dans l'après-coup, dans la possibilité de se le réapproprier. Donc elle rend ça, finalement, Joyce Carol Oates.
Elle rend ça formellement, puis elle pose aussi la question du témoin ou de la témoin. C'est-à-dire, comme lecteur, nous, on voit la scène, mais on voit rien. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut rapporter? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'expérience des autres, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment fascinant.
Est-ce qu'il y a des choses que vous cherchez dans les textes, Kevin Lambert?
Ouais, je cherche souvent, je pense, des moments d'opacité, des moments où qui déroutent la compréhension, la communication, le message, la clarté. J'aime quand les auteurs se contredisent. J'ai même du mal avec les livres un peu trop clairs ou les livres un peu trop cohérents.
Net.
Ouais, net. J'aime pas trop quand les gens nous... Je déteste aussi me faire dire quoi penser. Ça, je suis allergique à ça. J'ai toujours été tête dure là, quand j'étais enfant. J'étais un peu révolté contre toute forme d'autorité. Puis ça m'est resté dans la lecture. C'est-à-dire, si j'ai l'impression qu'on veut trop m'amener à penser quelque chose, souvent j'ai envie de penser le contraire.
Et vous abandonnez le texte? Vous êtes de cette bande-là?
Ouais, où j'essaie de trouver les moments où le texte échoue à me convaincre ou à me leurrer...
Est-ce qu'il y a un texte avec lequel vous auriez rendez-vous, mais celui-là de manière plus lointaine, pas sur votre table de chevet, quelqu'un qui vous attendrait?
Ben moi j'ai une formation très très littérature française, québécoise, de la francophonie disons. Puis là en ce moment je suis un peu dans la littérature américaine, je découvre ça puis je me rends compte en fait comment il manque de connaissances des littératures mondiales, tu sais. Parce qu'ayant étudié en littérature de langue française, tout le monde entier m'a échappé dans un sens. Donc moi je suis très attiré par la littérature japonaise en ce moment. J'ai vraiment envie de me plonger dans Mishima par exemple. Ça va peut-être être ça après Joyce Carol Oates, ouais.
Quel programme. Si on doit trouver, pour terminer ce questionnaire, un adjectif pour vous qualifier, ou plusieurs, vous seriez quel genre de lecteur? On peut en mettre plein.
Impromptu, perdu, mais dans le bon sens, je pense, qui aime se perdre. Ouais.
Impromptu et perdu. On va entrer dans votre texte avec cette musique-là.
Ici tout le monde s'est barré, ils ont triplé les loyers. Le quartier a trop géchant, les vieux troquets sont tous fermés. Tout est à vendre sur Comparis, un prix qui te pousserait au vice. Avant les poubelles s'entassaient, maintenant c'est des bagnoles de police. Des barres de merde ou sirotées, cocktail à 25 balles. Et dans ma rue de l'autre côté, les ambulances tournent en spirale. Ils ont remplacé les OD par des comas éthyliques. De fils de bourges encanaillés qui tiennent pas leur barbiturique. Ça claque la thune en terrasse, c'est le temps béni des colonies. Sont découverts où se mettent la race en chiant sur notre géographie. Boutique à 3, t-shirt et demi, slogan pété, pseudo-walk. Release party tous les jeudis, sponsorisé par Spritz et Coke. Ils se foutent bien de nos sorts merdiques pendant le restant de l'année. Ils apprécient côté exotique, l'odeur de pisse sur nos pavés. Ils parlent de démarches inclusives, mais leurs tables sont réservées. On crache dans leurs apéritifs, leurs pop-up stores, leurs cafés. Des gens très fiers de leurs vitrines, où tu peux te payer leur tête. Ça gentrifie même les latrines, du moment que ça enfle les recettes. On a les artistes qu'on mérite, je fais du recel de météores. Cette ville un mirage que je déplore, moi je veux moins de poules et plus de frites. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit rouge, ce sera une guerre de classe. Ils pensaient nettoyer le quartier mais la crasse est tenace. On a ralenti le processus, leur conquête de l'espace. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit rouge, ce sera une guerre de classe. On s'est fait tèche et puis retèche, les bourgeois nous remplacent. C'est dans leur sourire coldette qu'on va tailler au schlasse. Crise d'angoisse, contre-maître, ça prend des mesures en bas de l'immeuble. Expulsion, avis d'enquête, ça fait quoi de faire partie des meubles? De la bière tiède dans nos canettes, on connaît pas vos chansonnettes. Gardez vos brunchs, vos planchettes, on bouffe pas dans les mêmes assiettes. Des bars, lounge, des coffee shops pour Marc-Antoine et Pénélope. Microbrasserie, open space, et nous c'est le trottoir qu'on nous laisse. Avant ils étaient en petit nombre, ils voudraient changer le code postal quand un toxico les encombre. Panique totale, ils copieraient même nos ratures car ils aiment ridiculiser. Savent pas comment tiennent les murs, leur culture, une pièce rapportée. J'invente que dalle et tu sais quoi, on fait partie des oubliés. Quand ils traîneront en bas de chez toi, feront doubler le prix de l'immobilier. Ils feront croire qu'ils sont conscients des problèmes voisinage, que tout se fait équitablement, qu'il y a jamais de copinage. Je me demande à quoi ça va ressembler quand ils auront têche tout le monde. Je te parie que là où on ira, ils nous suivront dans les deux secondes. C'est pas une ode à Montier-Gard, c'est un crachat spontané. Rentrez dans vos maisons sous gare et arrêtez de nous les briser. Lausanne, je t'aime, mais t'as changé. J'ai plus confiance en tes jeux de piste. Pas besoin de m'en tenir informé, retire-moi de ta mailing list. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit rouge, ce sera une guerre de classe. Ils pensaient nettoyer le quartier, mais la crasse est tenace. On a ralenti le processus, leur conquête de l'espace. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit rouge, ce sera une guerre de classe. On s'est fait tèche et puis retèche, les bourgeois nous remplacent. C'est dans leur sourire coquet qu'on va tailler en chasse.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
C'est 14% ce morceau et c'est signé d'une musicienne suisso-libanaise qui s'appelle Lagal. Elle parle de Lausanne, mais avec votre texte, votre roman, il va plutôt être question de Montréal. Il y a deux fêtes fastueuses dans ce livre qui nous occupe aujourd'hui. Deux grands ballets des corps, des mondes et des pensées. Et au milieu, un scandale, un effondrement. Céline Wachowski est une architecte de renom. Elle est à la tête de grands ateliers de conception et construction. Un jour, un dossier consacré à la gentrification des villes dans un très grand journal associe bientôt, de manière indélébile, son nom à la violence que constitue ce remplacement d'une population par une autre, d'un tissu social et commercial par un autre, excluant bien entendu le premier. Il n'en faut pas plus pour que l'empire vacille, mais vous semblez écrire, Kevin Lambert, au-dedans des êtres. Alors, on ausculte plutôt le moindre tremblement des failles, comme si les êtres étaient des immeubles ou du bâti, nous pouvions lire dans la pierre, dans le béton qui bouge, comme chacun sait. On va commencer par ce personnage, Céline. J'avoue que j'ai un peu souri. Des premières pages, on est dans un espèce de... Vous parliez tout à l'heure d'être perdu. Moi, j'avais l'impression d'être un peu saoul, un peu stone dans une grande fête. Et on ne voit que Céline, comme une sorte de star esselée. C'est un peu marrant de commencer un livre avec une femme qui s'appelle juste Céline, sans nom de famille. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Céline Dion, Kevin Lambert.
Mais je devais qu'on... T'sais, mon défi, c'était de construire un personnage avec une grande réputation. Donc, le livre commence comme ça. C'est un peu la surface de Céline qu'on découvre. On la découvre dans une soirée, puis on la découvre surtout par le point de vue des autres sur elle, qui ont toutes sortes de récits, d'hypothèses, qui ont l'impression de la connaître, mais en même temps, ils savent rien. Puis en même temps, puis elle est effectivement saoule, fatiguée. Donc, la phrase est aussi saoule et fatiguée. On entre dans sa subjectivité comme ça. Puis, le nom de Céline m'intéressait parce que c'est...
Ça charrie tout ça, non?
Ben, c'est que c'est une grande vedette, c'est une grande voix aussi. Puis moi, mon travail, c'était surtout de le ressignifier, en fait. Puis je trouvais ça intéressant parce que aussi, sociologiquement, j'ai l'impression, Céline Wachowski ne pourrait jamais aimer Céline Dion. Tu sais, parce que c'est une génération plus vieille aussi, puis qui se construit beaucoup contre une forme de mauvais goût populaire, dans une vision un peu élitiste de l'esthétique. Puis donc j'ai aimé lui prêter ce nom-là, puis aussi travailler à tordre un peu la signification de ce nom-là, au Québec particulièrement.
Exactement, et alors bon, je sais pas du tout, j'imagine que c'est peut-être amplifié au Québec, mais en tout cas, moi qui suis pétrie de cet imaginaire-là, j'ai trouvé aussi que ça installait une forme de fausse route, c'est-à-dire qu'on arrive sur la pointe des pieds vers ce personnage-là qui va petit à petit se préciser, déjouer tout l'imaginaire que nous-mêmes, on a tout de suite rapatrié en entendant ce mot Céline. C'est que nous-mêmes, il faut qu'on déconstruise quelque chose, parce que moi, j'avais rien lu de votre roman avant d'entrer dedans. Je me disais, peut-être c'est Céline, en fait. Peut-être c'est une grande chanteuse perdue dans une fête. Alors, qui est-elle vraiment? Comment on pourrait la présenter, cette Céline Wachowski? Elle a à un moment donné un nom de famille.
Ouais, donc c'est une architecte, c'est une femme qui se voit comme étant de gauche. Donc, c'est quelqu'un avec une certaine conscience sociale qui a milité, disons, à sa manière, dans son milieu, qui est celui de l'architecture, mais qui est un milieu où il y a beaucoup d'argent impliqué, il y a aussi beaucoup de pouvoir politique, où il y a des conséquences aussi aux constructions puis aux bâtisses. Mais donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, est un peu fracturé entre la vision qu'elle a d'elle-même ou qu'elle a eu d'elle-même puis la réalité de ses actions. Puis tout le scandale que vous avez nommé, les articles, les enquêtes qui vont paraître sur elle, viennent un peu décristalliser l'image que nous-mêmes, on a de Céline, parce que la narration, pour moi, est toujours un peu en lutte presque avec le personnage, puis surtout en lutte avec son charme, parce que c'est vraiment une maîtresse des illusions, c'est vraiment quelqu'un qui est très...
Elle est séduisante.
Elle est très séduisante, oui.
Y compris intellectuellement.
Exactement, puis elle a une vraie pensée, elle a une vraie vision, je pense, du monde, mais il y a aussi toute une dimension critique. Puis ce que je cherchais là-dedans, je pense, c'est une sorte de d'équilibre ou de rapport non binaire, je dirais, entre la critique puis l'humanité puis la complexité intérieure de mon personnage. Je me disais, est-ce que le roman aujourd'hui, le roman politique, disons, a besoin de caricaturer ou de déshumaniser pour faire passer une critique sociale? Si c'est le cas, c'est un peu triste sur le roman, je trouve.
Oui, et surtout, est-ce qu'il a besoin de polariser? Ce que je trouve, moi, assez fou dans l'expérience de la lecture, c'est que, justement, on est au cœur de la pierre, quoi. On n'est pas d'un côté ou de l'autre, on est au milieu, alors au milieu de la fête, au milieu des êtres, au milieu de ce qui craque, et on vous entend pas penser de l'extérieur, Kevin Lambert.
Mais je voulais surtout pas, puis c'est drôle parce que les premiers jets du, c'est vraiment les premières pages que j'ai essayé d'écrire en les relisant, je trouvais que c'était vraiment mauvais parce que on sentait trop que je voulais me distancier de Céline, faire comme alors voyez ça c'est une milliardaire, elle a rien compris, puis moi j'ai tout compris. C'est un peu l'impression que j'avais en me relisant. Puis ça m'a vraiment écœuré de moi, puis je me poser une question aussi d'éthique, de me dire c'est quoi les périls de me construire comme ça dans la distance. Est-ce que moi je suis si au-delà de tout soupçon politique, est-ce que c'est utile aussi politiquement de se détacher aussi radicalement de ses adversaires, puis de les décrire d'une manière aussi réductrice. Puis tout le reste de l'écriture, puis de la réécriture, ça a été plutôt le contraire. Ça a été de trouver un espace de d'identification, puis de... Je me suis attaché, en fait, au personnage. Puis à la fin du livre, je sais toujours pas... Je pense que je peux pas dire si je l'aime ou si je l'aime pas. C'est au-delà de ça. C'est dans un... J'ai voulu un peu mettre mon jugement de côté pour aussi laisser la place au lecteur puis à la lectrice, parce qu'il y a pas de jugement, mais il y a des faits, par exemple, qui apparaissent. Puis je pense que le lecteur ou la lectrice peut faire aussi son propre jugement de Céline.
Quand vous racontez l'apparition de ce personnage et les premiers jets, on se demande, elle arrive comment cette histoire? Est-ce que c'est cette femme? Est-ce que c'est cette silhouette? Est-ce que c'est cette construction que je brossais à très grands traits? C'est-à-dire, en gros, il y a trois grandes parties. La première et la dernière partie sont des grandes fêtes, mais ce sont de nombreuses pages. On est vraiment dans un très grand ballet des corps, des mondes, des esprits, des pensées aussi. Et puis à l'intérieur, le texte est plus sectionné. Il y a 10 parties au milieu du deuxième chapitre. On est un peu plus factuel. On est du côté de la presse. On est du côté du scandale. Il y a des choses concrètes qui se passent. Qu'est-ce qui arrive en premier dans votre désir d'écriture, Kevin Lambert?
L'idée de la construction est arrivée très tôt parce que je travaillais avec l'architecture, avec le monde de l'architecture, puis je me suis questionné sur l'architecture d'un roman aussi, puis avec cette idée-là, comme tu le dis bien, de créer deux pavillons, si on veut, deux grands pavillons,
ouais, c'est ça,
traversés par un corridor, ouais, où il y a une sorte de passerelle qui les relie. Puis le livre, en fait, c'est une déambulation dans cet édifice-là. L'édifice, pour moi, c'est aussi, comme tu l'as dit, l'édifice intérieur de Céline. C'est l'ensemble des justifications qu'elle se fait, de récits qu'elle se raconte aussi sur son parcours, sur le monde.
Auquel on adhère plus ou moins, d'ailleurs, au fur et à mesure de la lecture.
Ouais. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on fait tous et tout ça, en fait. On se raconte une vision du monde, on se raconte une vision de notre propre parcours pour que la joie demeure, souvent, pour pas trop avoir à remettre en question notre joie. Mais l'idée vraiment première est arrivée en marchant dans mon quartier. Donc vraiment avec une déambulation là qui est plus physique. Puis où je voyais des triplex, des blocs appartements à chaque semaine ou presque sur ma rue être démolis puis remplacés par de splendides maisons d'architectes avec toute cette esthétique-là qui est assez violente où souvent j'ai l'impression que ces nouvelles constructions-là cherchent à se couper de la rue, les fenêtres sont givrées, les portes sont en retrait, les cours arrière sont clôturées. Puis je me disais, qui a le moyen, en fait, de construire ça? Qui a le moyen de décider que, bon, ici, on remplace la construction par une grande tour d'appartements de luxe? Puis qui sont ces gens qu'on ne voit jamais? Puis j'ai eu envie de représenter ce monde-là.
Mais justement, c'est à la ville que s'attache la question de notre auditeur-lecteur. Il s'appelle Quentin, on l'écoute.
Bonjour le Book Club et bonjour Kevin Lambert. Dans votre premier roman, on découvre la ville de Chicoutimi, qui est une ville-quartier un peu banlieue morne. Dans le deuxième roman, on a Robertval, qui est une ville ouvrière désindustrialisée. Et donc, dans le troisième roman, Montréal, parmi les ultra-riches, pour le coup. Et la ville est racontée par le prisme de sa gentrification. Donc ma question est-ce que vous avez besoin que la ville soit un personnage principal à travers vos romans, ou est-ce que, en tout cas, vous avez besoin que la ville fasse comme ça un tissu, un canevas pour pouvoir écrire vos personnages et vous aide à travailler comme ça sur les classes sociales et sur comme ça un prisme social et sociétal?
Merci beaucoup à Quentin de nous avoir envoyé cette question par l'Instagram de la communauté du Book Club. La ville comme un canevas, Kevin Lambert, comme un besoin ou une sorte de déclenchement d'écriture, vous y répondiez au départ.
Ouais, je pense que cette cette impression-là qu'il faut construire les lieux, qu'il faut les faire apparaître dans le roman. Ça me vient, au début, je parlais des lectures de fantasy que je faisais enfant.
Mais il y a Et quand même la porte aussi, vous disiez tout à l'heure.
Ouais. Mais il y a cette particularité-là de cette littérature-là qui cherche à construire un monde. C'est une littérature, en anglais, ils disent world building, mais il y a quand même cette connaissance-là chez les auteurs de récits fantastiques ou de science-fiction, où ils cherchent à nous décrire ce monde-là qu'on ne connaît pas. Puis moi, j'essaie de le faire aussi dans mes romans, de toujours me dire que... de jamais prendre les lieux pour acquis, puis toujours les donner à lire. Puis aussi, juste dans la manière de décrire un lieu, pour moi, il y a quelque chose de politique. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, quelle histoire on laisse apparaître, parce que c'est aussi... On peut inclure du passé dans la description des lieux présents, on peut inclure de la trace, on peut inclure des possibilités qui sont pas advenues ou des gens qui ont rêvé quelque chose pour un lieu, mais qui n'aura pas eu lieu, justement. Puis, donc, j'ai... Mais la ville, particulièrement, pour répondre à la question de Quentin sur la ville, c'est que moi, j'ai écrit surtout sur les petites villes de région où j'ai grandi. Puis ce roman-là, c'est le premier roman... Donc, j'ai déménagé à Montréal il y a 10 ans maintenant. Puis c'est le premier texte d'ampleur qui porte sur la ville de Montréal, parce que j'ai eu longtemps l'impression que la ville était illisible pour moi, que j'avais pas les codes pour la comprendre. Puis quand je suis arrivé aussi en ville, j'ai trouvé la ville très violente. Je trouvais que les violences apparaissaient d'une manière beaucoup plus... clair que dans la région d'où je viens, où par exemple les riches sont toujours au bout d'un chemin dans une forêt perdue, on voit jamais leur grande et fastueuse demeure, tandis qu'en ville il y a des quartiers où tu peux aller te promener puis tu vois les manoirs, tu sais. Tu vois aussi quand tu descends la montagne à Montréal, les itinérants qui sont juste en bas de la montagne. Tu vois aussi la nature qui a été bétonnée, l'absence de buissons, de champignons. Donc moi j'ai reçu la ville d'une manière vraiment violente au début.
C'était presque une métaphore du monde contemporain, de tout ce que ça peut créer d'inégalité et de violence. D'un seul coup, c'était juste de la violence en bloc.
Ouais, au début, c'était juste la violence en bloc. Puis je pense qu'après ça, ça a été d'amener justement de la distinction dans cette violence-là, une forme de lisibilité. Puis, mais dans mon livre, c'est ça, en fait. C'est la ville comme lieu où les inégalités sociales apparaissent de manière visible. Puis surtout où, dès qu'on construit, dès qu'on change quelque chose dans le tissu urbain, il y a toute une série de corollaires. Mmh. Donc, c'est ça qui m'intéresse, la question du corollaire, de l'effet oblique, de l'effet imprévu. Si je donne un exemple, par exemple, dans le livre, je raconte qu'à un moment donné, ils ont construit une passerelle entre deux quartiers à Montréal. Qui est contre les passerelles? Qui est contre la circulation des individus? T'sais? Mais un corollaire de cette passerelle-là, ça a été de gentrifier tout un quartier qui était plus pauvre, qui était soudainement relié à un quartier très bourgeois, très riche. Mais donc, je trouve ça intéressant, ça, parce que on est dans un rapport, justement, qui est très complexe, où des fois, des idées magnifiques, des idées inspirantes, des valeurs même, viennent entrer en collision avec la concrétude des choses.
Et c'est presque ce qu'incarne, en fait, Céline Wachowski, et ce que vous disiez au départ de son engagement, plutôt à gauche, plutôt humaniste, c'est-à-dire, il pourrait y avoir un enfer pavé de bonnes intentions, d'une certaine manière, et qu'en fait, construire engage beaucoup de choses, beaucoup de répercussions, et y compris dans le roman. Moi, ça m'intéresse quand même de revenir à la question de la construction, parce que vous parlez de deux pavillons avec un corridor. Il y a aussi quelque chose dans ces deux pavillons qui est très organique, c'est la fête, Kevin Lambert. C'est que c'est pas des pavillons vides où il y aurait que des très beaux objets d'art. Et il y a quand même de la fête, il y a quand même un possible dérèglement. Qu'est-ce qui vous intéresse là dans cette fête-là?
Ouais, la fête m'intéresse parce que... c'est la forme, c'est une des formes qu'on peut trouver pour le multiple, pour la multiplicité des points de vue. Puis c'est ça que je travaille en fait avec la fête, c'est parce que le livre porte beaucoup sur Céline Wachowski, mais il y a aussi toute une multitude de personnages secondaires, puis on entre aussi dans leur tête, puis même on entre dans leurs opinions, dans leur regard, dans leur
façon de regarder Céline aussi, donc
exactement.
Ça augmente la nôtre.
La construction aussi, parfois il y a des points de vue presque opposés sur les impacts de la construction de Céline Wachowski. Donc c'est ça qui m'intéresse dans la fête, c'est qu'est-ce qu'elle rassemble de contradictions, de points de vue, puis de visions qui s'entrecroisent. Parce que moi je me méfie toujours de l'unicité. J'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur d'un seul point de vue. Puis je me dis que si une vérité, pour utiliser un gros mot, là, existe, elle est certainement pas dans le point de vue d'un seul personnage. Elle est dans l'entrecroisement, dans le tissu extrêmement complexe des différentes perceptions puis des différentes sensibilités. Puis la fête, pour moi, est un lieu idéal pour ça, pour aussi tout ce qui se dit pas dans les fêtes, pour toutes les choses qu'on retient. Puis il y a des moments comme ça où des personnages auraient envie de dire quelque chose, où on a l'impression qu'ils ont dit quelque chose, puis là, à la fin du paragraphe, on se rend compte qu'ils l'ont gardé pour eux. Donc il y a aussi tout un discours intérieur, je pense, puis secret dans les fêtes qui m'intéresse.
Oui, et puis comme vous dites, ça fait apparaître plein de personnages et dans des situations voilà, qui nous permettent de regarder autrement la fête ou la sphère qu'il y a devant nous. Je pense au personnage de Marielle ou à celui de Pierre Moïse. Pierre Moïse, c'est l'associé de Céline. On s'est permis de couper, parce qu'on parlera tout à l'heure de votre longue phrase, mais voilà, on arrive au milieu d'une longue phrase.
Si Céline s'était montrée insensible, peut-être aurait-il été plus facile de se rebeller contre elle, de laisser s'exprimer les voix harassantes. Il a toujours appris à enfermer ce qu'il est dans un petit enclos. Les particularismes ne doivent pas pénétrer les hautes sphères de l'architecture, de la création pure. La plupart des employés des ateliers ignorent qu'il est gay, bien qu'ils ne le cachent pas. Trop de jeunes architectes l'avouent encore avec prudence, à demi-mot. Pierre Moïse connaît bien ce sentiment. Personne ne vous demande de n'être ni trop gay, ni trop noir. Du moins, pas directement. C'est une attente invisible, suivie d'un réflexe de survie qui pousse à rentrer dans le rang. Un sacrifice au prix duquel s'exprime la puissance impersonnelle de la création. Pierre Moïse fait appel à cette coûteuse puissance impersonnelle pour répondre avec inventivité aux demandes des clients. Ses intérêts, sa personnalité, ses engagements pourront toujours s'exprimer ailleurs, dans ses loisirs, en famille ou entre amis, par la philanthropie. Toute sa vie, il a excellé dans son rôle. Il s'est formé en suivant les voies du raisonnement lucide, du bon goût, en acquérant des connaissances en histoire, en sociologie, en urbanisme. Il a trouvé matière à construction partout hors de lui, a étudié les grands architectes avec soin et a produit ce qui se fait de mieux dans son domaine.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Kevin Lambert, on vient d'entendre un extrait de votre texte « Que notre joie demeure » lu par Léa Weiss-Grus. On attrape comme ça quelques bribes de ce personnage, Pierre Moïse, dont je disais qu'il était associé. On ne va pas dire tout ce qui se passe pour cette grande firme des ateliers de Céline Wachowski, mais il était associé à cette femme-là et on comprend petit à petit les nuances aussi de son association, toute nuance entendue, à Céline Wachowski. Qu'est-ce qu'il vous permet, ce personnage?
Ben, il me permet de poser une question à laquelle j'ai aucune réponse, mais justement, avec quoi on crée? Est-ce qu'on crée avec ce qu'on est sociologiquement, avec les données biographiques, avec notre expérience, avec notre vision du monde, ou avec ces forces impersonnelles dont il parle, avec ce que Proust nommait les puissances autres? Puis moi, je le sais pas, en fait. Je me pose la même question que lui, donc j'ai mis la question dans le livre, puis peut-être que le livre cherche des pistes de réponse à cette question-là, sans en donner. Puis moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que la suite de ce passage-là...
Oui, je cherchais la suite, moi aussi.
Il est dans un séminaire.
Ouais.
Puis là, c'est des jeunes étudiants, parce que lui, il s'est formé dans les années 90, disons, puis donc je pense que c'était aussi un discours d'époque, là. Les architectes qui se sont formés dans les années 90 diraient probablement quelque chose du genre. Mais là, les jeunes étudiants en architecture, puis les jeunes étudiantes lui disent « Mais attends, là, tu construis dans des quartiers défavorisés, il y a un engagement dans tes bâtiments, puis eux, ils ont étudié ces bâtiments à l'école, puis avec des lectures politiques, tout ça, puis ils comprennent pas du tout, puis sont un peu désarçonnés de l'entendre dire ça, puis lui-même est désarçonné par leur lecture. »
Et ça lui fait aussi se souvenir qu'il était la seule personne noire dans certaines sphères, ouais, au moment où il a passé son bac. Il relie aussi à la faveur d'un présent qui pense différemment, d'une jeunesse qui pense différemment, son propre parcours, la façon dont il a parfois soustrait ou tué des parties de lui-même pour accéder à la création pure, à l'architecture. Et je trouve que ça fait aussi le portrait des époques qui dialoguent ou ne dialoguent pas. Kevin Lambert, qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans?
Ben moi, ce qu'il dit, je le ressens souvent, c'est que j'ai l'impression, puis encore une fois, comme c'est dit dans le texte, il n'y a jamais personne qui te dit « ne t'exprime pas, ne sois pas qui tu es » et tout. C'est un sentiment indu qu'on ressent quand on est, disons, minoritaire dans un monde. Mais moi je pense que quand on est peu nombreux dans un univers, quel qu'il soit, on a souvent l'impression qu'il faut mettre ce qu'on est ou nos différences dans un tout petit enclos, tu sais. Puis il faut un peu les enfermer, les cacher. Alors que j'ai l'impression que quand on les met de l'avant, puis quand on ouvre à la fragilité puis à la sensibilité de ces expériences-là, on se rend compte qu'il y a plein de voies communes, où il y a plein de tunnels qui relient les sensibilités les unes aux autres, sans que ce soit les mêmes, sans qu'elles soient identiques. Mais en tout cas, moi, c'est ça que mon expérience m'a appris. C'est que finalement, quand on ouvre l'enclos, puis on expose ce qu'on est, aussi difficile que ça puisse être parfois, ben généralement, on arrive à trouver des accords.
Et ces accords-là relient aux marges, à d'autres marges, ou même au centre et, on va dire, à un espace dominant, un imaginaire dominant. Est-ce que vous diriez que s'exposer, c'est parfois peut-être avoir la possibilité de faire un pas vers le centre qui nous paraissait totalement inaccessible?
Je pense que on se relie souvent aux blessures des autres, puis malheureusement les blessures dans notre monde viennent souvent d'injustice ou de violence. Mais après, je pense que il y a rien de certain, il y a rien d'universel là-dedans. Puis ce personnage-là, par exemple, il y a un moment où avec son conjoint qui s'appelle Nathan, ils achètent un édifice, un duplex, puis il y a une voisine, il y a une locataire en bas en fait, puis cette locataire-là les dérange parce que on comprend qu'elle vient d'un milieu plus populaire, elle passe ses journées dehors, elle veut pas faire de jardin, elle préfère avoir du béton dans sa cour. Puis ils se disent toujours, parce qu'ils ont une bonne conscience sociale de gauche, qui sont justement sensibles, ils se disent toujours, mais on veut pas la mettre dehors, tu sais, c'est inacceptable, faut respecter le droit des locataires. Puis à un moment donné, elle leur dit un truc homophobe. Puis là, ils se mettent à dire, ah, mais là, franchement, l'homophobie aujourd'hui, c'est inacceptable. Puis là, on peut la mettre dehors, en fait, parce que là, franchement, elle a dépassé une ligne. Puis donc, je m'intéresse aussi à ça, à comment
parfois... Oui, aux hiérarchies des offenses.
Oui, puis comment des fois aussi, on peut être complaisant envers son identité, ou quand, du moins, on pense en termes identitaires, on peut utiliser cette identité-là pour excuser certains comportements, faire du mal aux autres. Donc, moi, je trouve qu'il y a rien qui est net dans ce monde-là. Tu sais, tout est affaire de gris puis de...
Et de grande complexité.
Oui.
C'est pour ça que c'était assez étonnant, on va quand même l'aborder, ce qui a fait légèrement polémique au moment où votre éditeur, Le Nouvel Attila, en France, a dévoilé le fait que vous ayez travaillé avec une sensible...
Je ne sais plus comment dire. Lectrice sensible.
Merci, lectrice sensible. Voilà. Comme si c'était pour ne choquer personne ou laisser tout le monde bien dans son coin avec ses identités et des choses bien clair qui ne blesserait pas. Il me semble que votre texte, peut-être vous pouvez nous dire concrètement ce que ça veut dire que travailler avec une lectrice sensible, mais ouais, j'ai l'impression que votre texte ne laisse pas grand monde en paix.
Non, pas du tout, je pense pas, puis je pense surtout qu'il y a pas beaucoup de personnages qui sont sans aspérité, puis qu'il y a surtout pas beaucoup de complaisance envers la... C'est ça, tous les personnages sont un peu par-delà le bien et le mal, de mon point de vue. Puis là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros malentendu, en fait, autour de ce que c'est la lecture sensible. C'est-à-dire que quand je lis les médias, souvent, j'ai l'impression... On parle même de démineurs éditoriaux, une expression que je trouve absurde.
Démineurs comme si c'était des bombes, quoi.
Comme s'il y avait des bombes dans les textes, puis qu'il fallait désactiver certains explosifs qui étaient potentiellement dangereux pour la sensibilité des gens qui lisent. Mais moi, c'est peut-être mon expérience qui est limitée, mais j'ai jamais rencontré ça de ma vie. Puis tu sais, au Québec, on le pratique quand même assez régulièrement là. Puis mes amis qui ont fait le même processus, c'était pas du tout ça la démarche. La démarche, c'est d'entrer en dialogue avec quelqu'un qui a une connaissance spécifique d'un sujet pour enrichir. Puis oui, aussi nous éviter de faire des maladresses, parce qu'évidemment personne n'est parfait. Puis on peut tous et toutes faire des maladresses quand on écrit, et nos éditeurs souvent nous en soulignent d'ailleurs. Mais donc pour moi, c'est ça, je comprends un peu pas tout ça. Puis souvent on fait aussi la comparaison avec la révision des textes du passé et tout. Puis tu sais, moi je connais pas ce travail-là, je l'ai jamais fait que je peux pas me prononcer là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que réviser un texte quand on est vivant, puis qu'on l'écrit soi-même, puis réviser les textes du passé,
ça fait partie du travail que vous faites. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est aussi une forme de précision, presque de connaissance parfois technique aussi, des vies qui nous sont éloignées, des termes. Pourquoi s'en priver d'une certaine manière ?
Ben moi, je le fais sur tous les aspects du livre, pas juste sur l'identité des personnages. Je le fais sur l'architecture, je le fais sur l'histoire de la ville, je le fais. J'écris en faisant de la recherche. Donc pour moi, ça fait partie de ma démarche de recherche.
Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça peut dire la crispation autour de cette idée-là? Qu'est-ce que ça raconte de notre monde, Kevin Lambert, l'idée que on soit affolé à l'idée que des éminences grises relisent des textes pour ne choquer personne?
Mais je pense que j'ai l'impression qu'on a un rapport très complexe à la sensibilité, justement, parce que les réactions de peur, de crainte, les scénarios anxieux qui disent qu'une nouvelle morale serait importée des États-Unis, peut-être par le Québec, qui s'infiltrerait en France, nous contaminerait puis nous empêcherait de lire les textes du passé, en gros, là. Donc, ce scénario-là, je le trouve très, très anxieux, puis notre manière d'y réagir, je la trouve très à fleur de peau, parfois, puis même complètement déraisonnable, puis je me demande, est-ce qu'on a vraiment peur de la réalité ou on n'a pas plus peur des récits qu'on se raconte. Alors que pour moi, la sensibilité, c'est une puissance. Evelyne Grossman, dans un bel essai, parlait de la puissance d'être affectée. Puis pour moi, la création, l'écriture a besoin de cette puissance d'être affectée-là, d'être traversée par le monde, d'être bousculée aussi, d'être déplacée. Puis être sensible à n'importe quoi, à une infinité d'enjeux, c'est justement se permettre d'être déplacé puis d'être bouleversé.
Donc en aucun cas, vous avez peur, Kevin Lambert, de produire des textes qui pourraient heurter les sensibilités ou affecter les autres. Au contraire, ça ferait partie du désir des textes.
Ben oui, puis je veux dire, faut pas avoir lu mes précédents livres pour penser ça, là. C'est-à-dire que, tu sais, pour penser que mon cadre, c'est la morale, mon cadre d'action, c'est la morale. Tu sais, moi, je déteste la morale. Tu sais, ça m'intéresse pas, puis mes autres livres sont absolument amoraux, je pense. Donc non, je vois pas du tout de péril, de lycée, quoi que ce soit. Au contraire, je pense que c'est une manière d'ajouter à l'aspérité au sens presque rocailleux. Si on décrit une caverne puis que on élimine tous les stalactites, c'est plus une caverne.
Donc c'est rajouter des stalactites à la caverne.
Je pense que oui.
Il y a un livre qui hante ce livre-là que notre joie demeure, c'est ni plus ni moins La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'une très grande traversée. En fait, ça s'appelle Une grande traversée, mais je la trouve tellement belle que ça devient une très grande traversée consacrée à Marcel Proust. Ici, c'est André Benhaï qui cite un grand critique littéraire de l'époque, Paul Soudet, parlant de la recherche.
Visiblement, les jeunes ne savent plus du tout le français. La langue se décompose, se mue en un patois informe et glisse à la barbarie. Il serait temps de réagir. Il nous semble que le gros volume de M. Proust n'est pas composé et qu'il est aussi démesuré que chaotique, mais qu'il renferme des éléments précieux dont l'auteur aurait pu former un petit livre exquis. Alors j'adore ce compte-rendu parce qu'il est absolument juste. Simplement, tous les défauts que Paul Soudet trouve à l'œuvre de Proust sont ses qualités. Justement, c'est cette nouvelle langue, ce chaos, hein, cette demesure qui fait partie de l'énergie du texte de Proust. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Proust avait anticipé cette critique parce que 5 ans auparavant, au moment où il se met à rédiger la recherche, l'écrit à Madame Strauss, les seules personnes qui défendent la langue française, comme l'armée pendant l'affaire Dreyfus, ce sont celles qui l'attaquent. La correction, la perfection du style existe, mais au-delà de l'originalité, après avoir traversé les fautes, non en deçà. Donc voilà, on trouve un Proust qui est conscient de la violence qu'il fait à la langue. Proust est un révolté. Lui cherche à écrire autrement et à faire un autre usage de la langue française, toujours à la recherche d'une autre manière d'entendre la langue et de la pratiquer.
André Benhaïm, parlons de Marcel Proust en tant que révolté. C'est assez rare qu'on parle de Proust en tant que révolté. On parle souvent de lui comme un grand mondain, comme un auteur dans sa chambre. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fantôme de la recherche du temps perdu, dans la manière dont il existe dans votre texte, Kevin Lambert?
Ben, ce qui m'intéressait, c'est la manière de sonder la vie intérieure, parce que c'est la question que je me suis posée, puis en lisant pas seulement Proust, mais Marie-Claire Blais, Virginia Woolf, des auteurs qui se sont posés cette question-là. Comment on écrit la vie intérieure, c'est quoi la manière la plus juste ou la plus riche d'approcher ce sujet-là? Puis ça, c'est partout dans la recherche. Ce qui m'intéressait aussi, c'est la description de milieu, donc ce monde-là de la très grande bourgeoisie puis de l'aristocratie qui est représentée. Puis donc Céline Wachowski elle va traverser la recherche du temps perdu à un moment après sa chute, si on veut. Elle va lire la recherche, puis je me suis aussi amusé à donner une lecture de la recherche qui est pas la mienne, qui est celle d'une autre. Puis ça, c'était très, très amusant.
Ah ouais.
D'inventer un commentaire sur le texte qui est pas nécessairement celui que j'ai. Puis à un moment donné, son commentaire, c'est précisément de dire, sur la fin de la recherche, sur cette espèce de balle des têtes où tous les personnages apparaissent vieillis, où on a un peu... ça a été lu beaucoup comme ça par la critique, mais le sentiment de la fin d'un monde, d'une classe sociale...
C'est un bal, là aussi, c'est une grande fête, quoi.
C'est juste des grandes fêtes, la recherche. Il y en a vraiment beaucoup, puis... Donc, Céline, quand elle lit ça, elle se dit... En fait, il s'est complètement trompé parce que cette classe sociale-là est plus pimpante que jamais. Puis, il y a tout un développement là-dessus. Puis, mais c'est très beau ce qu'il dit sur la langue aussi, sur la faute. Parce que moi, ce que j'aime de Proust aussi, c'est que c'est toujours... C'est jamais la logique qui prime.
Il parle d'un chaos, même.
Oui, puis il a tout à fait raison. Puis je pense que son déplacement de la langue, il vient de là. Puis même, il en parle dans la recherche, Proust, dans tout ce qu'il dit sur la défense de l'instinct contre l'intelligence. Au tout début, il y a un passage où là, il rencontre Bergotte, puis Bergotte lui dit, il est encore enfant, lui dit, comme vous devez prendre plaisir dans le monde de l'intelligence et tout. Puis là, après ça, l'enfant quitte la soirée, puis il se dit, mais en fait, Bergotte a rien compris. J'ai jamais pris aucun plaisir dans l'intelligence. Tout ce qui m'intéresse, c'est les sentiments, puis ces choses-là. Puis après ça, c'est un motif qui traverse, ça revient à plusieurs reprises. Puis pour moi, Proust a fait la plus grande défense des artistes en écrivant ça, en disant c'est l'instinct qu'il faut défendre, pas l'intelligence. C'est les puissances autres qu'il faut défendre, puis l'intelligence doit se mettre au service de l'instinct.
Il y avait quelque chose aussi qui m'intéressait, notamment dans la troisième partie, c'est l'idée d'une puissance très organiste du texte lui-même. C'est-à-dire que autant la deuxième partie, on a éventuellement pu reprendre son souffle, être du côté plus rationnel de l'histoire, on va dire. J'ai l'impression que cette troisième partie, elle vient comme un bloc, nous percuter, nous-mêmes entrons dans ce bloc de texte. Enfin, il y a vraiment l'idée d'une puissance, quoi, du texte instinctif, pour reprendre vos mots, Kevin Lambert.
Puis ouais, je pense que ça passe par cette phrase là puis par la traversée des émotions aussi que vit Céline. C'est-à-dire que c'est les émotions qu'elle vit sont pas du tout, il y a pas de ligne
pas rangé,
claire
quoi,
hein? C'est pas rangé du tout, mais je pense que souvent les romans nous trompent un peu en nous faisant croire qu'il y a vraiment
une chose après l'autre.
C'est ça, des étapes. Puis Barthes, dans son dernier séminaire, il parle du deuil, puis il dit j'aime vraiment ça parce qu'il dit Freud, ça m'intéresse pas du tout ce que Freud dit du deuil, parce que c'est très étapiste, c'est très clair. Puis il dit, la seule chose qui m'intéresse, c'est comment Proust en parle. Puis c'est vrai que le deuil dans la recherche, ça va vraiment dans tous les sens. Puis moi, je trouve que ça, c'est, pour moi, c'est général ça. Souvent, on se fait un peu leurrer par des philosophes ou par des penseurs, des penseuses, des romanciers, des romancières
aussi. Qu'elle lit d'ailleurs, hein, Céline Wachowski, elle lit les philosophes.
Ouais, elle les lit, puis elle les cite. Mais souvent, on se fait leurrer à croire que les émotions ont une logique, justement. Puis c'est terrible de penser ça. C'est que si on veut vraiment écouter les émotions, puis le monde infiniment complexe des affects, faut complètement se déprendre, je pense, de l'idée d'une logique, puis de l'idée de la non-contradiction, par exemple. Ça, c'est très important pour moi. Puis ça va avec une pensée aussi qui serait non-binaire, qui serait pas strictement dans le bien ou mal, ou dans l'opposition entre deux clans, mais c'est que il faut tolérer, je pense, la contradiction absolue des termes.
D'ailleurs, le désir se charge de faire ça. Le désir charge vos personnages de se mettre dans des positions très contradictoires, Kevin Lambert. Mais puisque vous parlez d'émotions ou de sensations, peut-être un dernier mot sur ce mot-là ou sur ce titre, que notre joie demeure. À cette joie-là, c'est laquelle et faut-il qu'elle demeure? Ou comment?
Ouais, c'est une bonne question. Il y a plusieurs joies, je pense, dans le texte, mais il y a un moment où tout le monde se met à chanter cette chanson-là de que notre joie demeure, puis c'est dans une grande fête de gens très puissants, puis la joie devient un peu le synonyme de leur
puissance,
de leur privilège,
de leur pouvoir.
Ouais, c'est ça, c'est un champ de statu quo, c'est un champ de pouvoir, on veut rester au pouvoir, en fait. Puis
c'est demeure qu'on entend plus dans cette histoire là
c'est demeure qu'on entend plus. Puis je dirais même que Céline va se révolter contre cette joie là pour trouver peut-être une autre forme de joie. Mais ouais, cette joie là va être même attaquée complètement dans la troisième partie par Céline elle-même.
Et aidé par une forme de soulèvement et d'intrusion, mais on n'en dira pas plus. Merci beaucoup, Kevin Lambert. Que notre joie demeure, apparu aux éditions du Nouvel Attila.
Merci.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
tous les jours à cette heure-ci, dans le Book Club, on reçoit de la visite pour élargir notre grande conversation autour du livre. Et le mercredi, c'est Lecture Jeunesse avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour.
Bonjour Marie.
Tout à l'heure, Kevin Lambert parlait de l'apprentissage de la lecture et de la possibilité comme ça de tracer les lettres les unes après les autres. Aujourd'hui, Mathilde, vous nous parlez d'un livre illustré qui a une forme bien identifié.
Absolument Marie, aujourd'hui je vous parle d'un abécédaire illustré. L'abécédaire en tant que tel est un grand classique de la littérature pour la petite enfance et en soi une forme passionnante. Je vous explique pourquoi. C'est d'abord l'un des plus anciens genres de livres destinés à la jeunesse. Si j'en crois l'internet, on en trouve des traces jusqu'au 15e siècle et en France, ils fleurirent au 18e et plus encore au 19e siècle au moment de l'instauration de l'enseignement public.
Bon, peut-être qu'il faut dire ce que c'est qu'un abécédaire, en quoi ça consiste un abécédaire ?
Oui, absolument. L'abécédaire consiste en un petit livre destiné à l'origine à apprendre l'alphabet. Livre qui illustre en suivant l'ordre alphabétique chaque lettre par un ou plusieurs mots dont cette lettre est l'initiale. Autrement dit, l'abécédaire impose une forme fixe qui fait intervenir une liste de 26 mots au moins. On entend donc dans cette simple définition qu'on a là affaire à une forme littéraire à contrainte. Il y a quelque chose de joyeusement oulipien là-dedans.
Et ça, vous aimez bien.
Et ça, j'aime beaucoup.
À l'origine, l'abécédaire, c'est d'abord conçu pour apprendre à lire.
Oui, à l'origine, beaucoup des auteurs et des autrices que vous recevez à ce micro, ici Marie vous le disiez, et aujourd'hui encore, lorsque vous leur demandez s'ils se souviennent d'avoir appris à lire, vous répondent par des souvenirs liés à l'apprentissage de l'écriture. C'est que ces deux apprentissages sont profondément imbriqués dans nos expériences. Pensez au temps que passent les enfants dès la maternelle, à la reconnaissance progressive de la forme des lettres, au fait d'y associer des sons, de savoir ensuite les tracer en tenant un feutre ou un stylo dans la main, c'est toute une aventure en soi. Si je trouve la forme de l'abécédaire passionnante, c'est peut-être aussi parce que ces livres nous ramènent à cette chose si singulière et qui se trouve au cœur de notre expérience de la lecture, à savoir le fait d'associer une forme abstraite, géométrique, à un son qui renvoie lui-même à un sens. Que deux traits obliques qui se rejoignent en leur sommet et auxquels on ajoute un trait horizontal forment le son A, c'est, si l'on y réfléchit, tout à fait troublant. Que ce son A s'entende dans des objets de nature aussi différente que l'aspirateur, l'amygdale ou l'araignée, c'est carrément renversant. C'est ce qu'on appelle, pour le dire très vite, l'arbitraire du langage. Et en linguistique, depuis Saussure, la différence entre le signifiant et le signifié, puissance philosophique de l'abécédaire, donc.
Ouais, moi, j'avoue que vous mettez le doigt sur quelque chose qui, depuis le début de ce book club, me fascine et va me fasciner, j'ai l'impression, grandissant au fur et à mesure qu'on va poser les questions à nos invités. Mais alors, ce livre-là, dont vous nous parlez aujourd'hui, Mathilde, de quelle manière il s'empare de cette fameuse forme contrainte ?
Oui, j'en viens au livre qui a suscité mon envie de parler de cette forme. Il s'appelle Ababa BC. Il est signé Elisa Géin et est paru dans la collection dédiée à la littérature jeunesse des éditions 2024. Ababa BC, titre qui pourrait indiquer que cet abécédaire-là va nous rendre baba, ou bien qu'il donnera de l'abécédaire une sorte de béaba, on ne sait, mais on est d'emblée intrigué. À la contrainte générale, Elisa Géin a eu la formidable idée d'ajouter un ingrédient de son cru. Au lieu de ne choisir que des mots en français, elle propose en plus un choix de mots albanais, allemand, italien, polonais et turc. Ainsi, à la lettre A, on peut lire et voir dessiner les mots armoire et avion, mais aussi les mots agneau, ameise et ah, dont, grâce au dessin et à un petit lexique en fin de livre, on apprend qu'ils signifient respectivement ange, fourmi et arbre en polonais, en allemand et en turc. Le pur plaisir de prononcer plus ou moins mal et maladroitement, et pardon d'avance à celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent ces langues, le pur plaisir de prononcer des mots tels que Chipolla, Dinosaurir, Hawaï, Fishek, Irich, Rushi ou encore Vieloreb rend la lecture et le partage de ce livre avec les plus jeunes délicieux. Il révèle aussi par parallélisme le caractère finalement fort rigolo de la sonorité de mots français tels que par exemple cuble, églantine, jonquille ou quetch. On sent qu'Elisa Géin s'est beaucoup amusée à chercher une alternative à l'éternel wagon de la lettre W, par exemple. Dans un entretien, elle raconte son affection toute particulière pour le merveilleux Gjigjelonja, la luciole en albanais, qui commence par un X et qui, malgré les cinq langues qu'elle avait à sa disposition, fut sa seule alternative au sympathique mais vu et revu xylophone français.
Est-ce qu'on dit un petit mot quand même ? Vous avez dit que c'était illustré, on dit un mot du dessin ?
Oui, le trait a quelque chose de très simple. Les couleurs sont lumineuses et puis surtout, ses dessins sont pleins d'humour, sans que j'arrive bien à expliquer pourquoi, à la lettre D, la vue de la case figurant un crocodile se prélassant sous une douche D-U-S-C-D, tel que le mot s'écrit en turc, par exemple, me fait sourire à tous les coups.
Bah ouais. On rappelle le titre ?
La Baba Baissée d'Elisa Géhin aux éditions 2024.
Trop hâte de l'ouvrir. Merci beaucoup Mathilde. Est-ce que vous aviez un abécédaire, Kevin Lambert? Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Je me souviens pas si j'avais un abécédaire. Mais je me souviens, par exemple, des lettres accrochées dans la classe à l'école, où là, il y avait justement des petites représentations, l'abeille, tout ça.
Mais plus ça va, plus quand même, on commence toutes nos émissions par ça, plus la question du langage comme étant vraiment la matérialité, les lettres, quasiment l'objet, je trouve se fait jour, et bon, je trouve ça fascinant.
C'est fascinant de décorer avec ça aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose d'écrire sur les murs, il y a quelque chose de rebelle un peu quand même dans les murs d'école.
Pourvu que ça ne se perde pas. C'est l'heure de jouer ici dans le Book Club. Le grand jeu des pages musicales, c'est un grand jeu qu'on a lancé depuis quelques semaines maintenant. J'en rappelle le principe. Vous êtes tranquillement en train de lire, vous repérez un passage d'un livre où apparaît un air musical, vous faites une photographie de ce paragraphe, vous nous l'envoyez. Nous avons désormais une petite collection, mais qui ne demande qu'à être complétée. Et chaque jour, nous piochons une de vos trouvailles de lecture pour terminer l'émission à la fois avec un texte et de la musique. Aujourd'hui, on doit notre trouvaille de lecture à EKTFR. Je n'ai que le pseudo. Voilà, ça nous est arrivé par Instagram. Il a choisi ou elle a choisi de nous envoyer un texte d'Elie Maucourant. Le livre s'appelle Warm Blue, tome 1, Poison d'Azur, paru à l'Harmattan en 2019. Et ça fait comme ça. Riche, respecté, craint, adulé, adoré, détesté, vénéré, Veit s'observa dans le miroir de la suite qu'il avait aménagée près de la faille, dans une vieille ferme. « T'es beau, mon pote », dit-il à son reflet séduisant. Iggy Pop, « I wanna be your dog », résonnait dans la chambre. Veit caressa sa peau, regardant ses doigts, sa main, dont l'annulaire était garni d'un rubis délicieux. « Now I wanna be your dog », murmura-t-il à ses yeux brillants. En un mois, il avait fait plus de fric qu'en une vie. En un mois, il avait obtenu la grâce de sortir de la boue, de la merde, du vice rampant. L'apex se profilait derrière les montagnes de corps, se ruant à travers la faille. Sa faille. Il sourit. « Now we gonna be face to face », murmura-t-il. My favorite place. Au son aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Alexandre Alaibegovic, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Didier Pinault, Mathilde Wagman et Léa Weissgruss. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr et en podcast via l'application Radio France. Vous pouvez évidemment rejoindre la communauté du Book Club via Instagram pour nous envoyer vos questions et puis pourquoi pas participer au grand jeu des pages musicales.
Je vous souhaite une très belle après-midi sur France Culture.